tu veux aller. Allez mon grand. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand.
Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
On m'en fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Et bonjour à toutes et à tous, aux amatrices et aux amateurs de sport.
Salut.
On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Athlètes. Au menu aujourd'hui, Simon va vous parler de l'Euroleague et des aspects qui ont rendu cette compétition si populaire. Puis, avec moi, nous reviendrons sur le retour de Naomi Osaka en compétition et de la raison de son départ. Et enfin, PA poursuivra sa chronique sur les JO en se penchant cette fois-ci sur les sports de raquettes.
Si vous êtes un fan de sport, alors écoutez-moi, vous allez adorer l'Euroleague. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, voyons brièvement quelques points importants à savoir sur l'Euroleague. Cette compétition voit le jour pour la première fois en 1958 sous le nom des Coupes des Champions Européens. C'est seulement en 1991 qu'elle prendra le nom de l'Euroleague. L'Euroleague, c'est la compétition de basket la plus prestigieuse, regroupant 18 des meilleurs clubs européens. Elle se déroule en deux phases, avec la saison régulière, puis les play-offs pour atteindre les phases finales, appelées le Final Four. Le Final Four, c'est les demi-finales et la finale qui se jouent sur un même week-end, déterminant le futur champion d'Europe. L'équipe la plus titrée est le Real de Madrid, avec 11 titres pour 20 apparences en finale, et sont d'ailleurs les tenants du titre actuel. Cette compétition a le format d'une ligue semi-fermée, car il y a une possibilité de rejoindre et de quitter la compétition grâce aux résultats sportifs. Mais semi-fermée, car 11 des 18 clubs possèdent une licence leur garantissant une place pendant un certain nombre d'années. Passons maintenant à des choses plus palpitantes. Depuis quelques années maintenant, l'Euroleague devient de plus en plus populaire. Voyons ensemble leurs recettes. Elle le doit bien à ses équipes emblématiques, reconnues notamment grâce à ses fans, qui mettent une des meilleures ambiances du monde, en tout cas pour le basket. On peut parler des équipes serbes, du Partizan et de l'Étoile Rouge de Belgrade, les plus connues en termes d'ambiance, qui détiennent aujourd'hui le record d'affluence jusqu'à plus de 20 000 personnes dans le stade mythique de la Stark Arena lors du derby serbe. Pour vous donner une idée, le match n'avait toujours pas commencé, et dans les tribunes, ça ressemblait à ça. Les Grecs et les Turcs sont aussi connus pour leurs ambiances à couper souffle. Jouer dans le Oaka Stadium lors du derby grec ou dans la Ulkespor Arena d'Istanbul pour le derby turc doit être quelque chose qui fait rêver n'importe quel sportif. L'Euroleague n'a donc pas à rougir face à la NBA. Au contraire, avec des vidéos qui font le tour du monde, certains Américains envient l'ambiance et la ferveur autour des supporters européens. Mais au-delà de l'ambiance, il y a aussi le niveau. Avec ça, l'Euroleague peut aussi rivaliser face à la NBA. La preuve, certaines équipes comme le Real Madrid tenant du titre seraient capables de poser des problèmes à certaines franchises NBA, comme on a pu le voir en pré-saison. Bien sûr, cela reste à prendre avec des pincettes. Les champions du titre se sont imposés face à l'équipe de Dallas, de Luka Doncic. C'est leur troisième victoire en 9 confrontations face à des équipes NBA. Un autre ingrédient primordial de cette popularité est l'excellence sportive de la Ligue, avec des joueurs talentueux venus des quatre coins du monde pour assurer un match de basket de qualité avec du show au rendez-vous. Malgré un style de jeu bien différent de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, il séduit de plus en plus d'anciens joueurs NBA qui finissent ou poursuivent leur carrière en Euroleague, à l'image de Serge Ibaka, Ricky Rubio ou encore l'ancien All-Star Kemba Walker. En parlant d'excellence sportive, en ce moment même, un record risque d'être battu dans les prochains jours, ou est même sûrement déjà battu lors de votre écoute. Nando Docolo et Mike James, deux des joueurs les plus spectaculaires, se disputent pour être le meilleur marqueur de l'Euroleague et dépasser les 4455 points de Vasilis Panoulis. Nando Docolo, a priori favori pour briser ce record, s'est vu rattraper à une vitesse fulgurante depuis l'arrivée du prodige américain en 2014. La saison 2024 devait être celle de l'arrière français, mais c'était sans compter sur une blessure au mollet qui l'écartera une bonne partie de la saison. Mais comme toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors Mike James, lui, pendant ce temps-là, carbure depuis son arrivée à Monaco à presque 18 points par match. C'est donc à Padjian qu'il a dépassé son rival français deuxième meilleur marqueur le 31 janvier 2024. À l'heure où je vous parle, c'est plus qu'une question de temps. Seulement un mois après, Mike James est seulement à 9 points du record et joue ce soir, le jeudi 7 mars 2024, contre l'Étoile Rouge de Belgrade pour tenter de devenir le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague et graver pour de bon son empreinte dans l'histoire du sport. Tous les feux sont au vert pour le futur de l'Euroleague, mais de nombreuses questions restent encore en attente. Faut-il devenir une ligue fermée pour garantir le meilleur aux fans ? Mais on a aussi entendu des bruits de couloir, avec une potentielle volonté de s'implanter dans les plus grandes capitales européennes, comme Londres et Paris, et même s'ouvrir aux Émirats Arabes Unis comme à Dubaï. Ou encore question plus politique, avec la réintégration de ces équipes russes à la compétition. Bref, là n'est pas le sujet. Nous, on a trouvé quelques ingrédients, comme une ambiance incroyable avec des joueurs uniques. Voilà la recette du succès de l'Euroleague. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur l'Euroleague. À bientôt dans un nouvel épisode des Athlètes.
Well, she cemented herself as a superstar in the world of tennis. She was the US Open champion in September. She becomes the Australian Open champion here tonight. And on Monday, she becomes the world number one. Ladies and gentlemen, your Australian Open Women's Singles Champion for 2019, Naomi Osaka.
Ce début d'année est marqué par le retour de Naomi Osaka. C'est une joueuse de tennis japonaise, ancienne numéro 1 mondiale. Après 15 mois d'absence, elle a fait son grand comeback à Brisbane début janvier. La dernière fois qu'on l'avait vue sur un court, c'était en 2022 à Tokyo, où elle a malheureusement dû abandonner pour cause de blessure. Puis elle a annoncé qu'elle prenait une pause pour l'année 2023. En effet, l'ancienne numéro 1 attendait son premier enfant, une petite fille prénommée Shai. Revenue motivée, elle a pour objectif de participer au JO Paris 2024, mais aussi de remporter de nouveaux grands chelems tels que Roland-Garros et Wimbledon. Donc résultat de son retour. Revenue à Brisbane, elle a battu l'Allemande Tamara Korpach en deux manches, mais s'est inclinée le match suivant face à Karolina Pliskova en trois manches. Elle s'est fait éliminer dès le premier tour par Caroline Garcia à l'Open d'Australie, de même au Women Tennis Open d'Abu Dhabi. Elle a tout de même réussi à atteindre les quarts de finale au Women Tennis Open de Doha. Rappelons tout de même que Naomi Osaka, c'est 4 victoires en Grand Chelem, dont 2 à l'US Open et 2 à l'Open d'Australie. Maintenant, parlons de ses engagements. La joueuse a réouvert le débat et brisé le tabou sur la santé mentale chez les sportifs, notamment en 2021 en refusant les interviews d'après-match à Roland-Garros, afin de se préserver. Juste après, elle a décidé de déclarer forfait. Elle a évoqué ensuite dans un post sur les réseaux sociaux la dépression qui la suit depuis 2018. Comme Simone Biles et d'autres athlètes, elle met en lumière les questions de santé mentale ainsi que le manque de soutien psychologique attribué aux athlètes. La santé mentale, c'est un sujet qui commence enfin à être pris au sérieux alors que les sportifs de haut niveau, notamment de sport individuel, sont plus susceptibles par rapport à la norme générale d'être touchés psychologiquement, selon une enquête australienne publiée dans Sport Médecine. Naomi Osaka a reçu le soutien de nombreux athlètes tels que Marina Navratilova. J'aimerais aussi revenir sur le soutien qu'a apporté Naomi Osaka au mouvement Black Lives Matter. Revenons en 2020, pendant le Covid, et aussi pendant les manifestations aux USA contre les violences policières. Naomi Osaka est venue à chacun de ses matchs avec un masque abordant le nom d'une victime noire qui a été abattue par la police. Elle n'a pas hésité à utiliser sa notoriété pour parler d'un sujet important aux États-Unis qui la touche personnellement. Bref, Naomi Osaka, en plus d'être une incroyable joueuse de tennis, c'est une personne engagée qui ose dire les choses même si elles sont taboues. Elle utilise, comme je le disais avant, sa notoriété pour défendre des valeurs justes, qu'elles soient sportives ou politiques.
Après avoir parlé de cyclisme puis de sport collectif, il est temps pour nous, dans cette troisième chronique, d'aborder un thème cher au cœur de nos sportifs du dimanche, les sports de raquettes. Alors évidemment, quand on parle de sports de raquettes, on parle de tennis, de badminton, de tennis de table et le petit dernier qu'on oublie tout le temps, gouzi gouzi gouzi, le squash. Bien qu'il faille en parler à un moment, je suis pas sûr qu'on va beaucoup s'attarder sur les performances des Français parce que vous verrez. Je vais pas vous spoiler, mais écoutez jusqu'au bout, c'était important. Pour les stats, tu connais. Alors, on commence par le squash. Du moins connu au plus connu, on est organisé au troisième lieu. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, le squash se joue dans un terrain de 9,75 m par 6,40 m, complètement entouré de parois, transparentes évidemment, pour qu'on puisse les voir jouer. Le but, comme dans tous les autres sports dont on va parler aujourd'hui, c'est bien évidemment de taper la balle sans que son adversaire puisse la récupérer. Sauf que là, il n'y a pas de filet. Le joueur doit taper dans la balle avant qu'elle ne touche une deuxième fois le sol et doit l'envoyer sur le mur frontal, au-dessus de ce qu'on appelle le tin, avec ensuite possiblement des rebonds sur les murs, mais c'est pas obligé. Ok, je vous ai pas perdu ? De toute façon, vous pouvez pas me répondre, donc je continue. Maintenant qu'on a vu grosso modo les règles, attention, croyez pas que vous êtes des experts, j'y suis allé mollo, on va pouvoir voir qui va gagner. Actuellement, ceux qui dominent la discipline, ce sont les Égyptiens, avec 5 joueurs dans le top 10 mondial, c'est-à-dire au classement PSA, Et c'est aussi eux qui ont gagné 9 des 10 derniers championnats du monde, notamment grâce à Ali Farag, qui est le meilleur du monde, numéro 1 mondial et tout le tralala. Cependant, et là je pense que je vais retenir votre attention, les Français sont pas non plus à la ramasse. Alors, on n'est pas les meilleurs mondiaux, mais Victor Croin et Baptiste Mazzotti sont 11e et 14e mondiaux, et Totor, il sort d'une demi-finale au Tournament of Champions, et il faut noter aussi qu'en mars de l'année dernière, il était 7e mondial, applause. Chez les femmes, la première française est 26e mondiale, donc on va pas trop se faire d'illusions, ça risque d'être vraiment compliqué d'aller chercher une médaille. Maintenant, le badminton, et pas babington parce que, voilà. Pas besoin de rappeler les règles, je pense. On y a tous plus ou moins joué en vacances, sur la plage ou en club, donc c'est bon pour les règles. Le badminton, malgré sa popularité, est pas vraiment médiatisé. De temps en temps sur l'équipe si ça vous intéresse, mais on a pourtant affaire à une grosse domination d'un homme, champion olympique, champion d'Europe, champion du monde, le Danois Victor Axelsen. Il est tout simplement beaucoup trop fort depuis les Jeux de Tokyo, limite invincible, et donc plus qu'archi favori pour un nouveau titre olympique à Paris. À part lui et son compatriote Anders Antonsson, 3e mondial, le badminton mondial est ultra dominé par les joueurs asiatiques, chinois, thaïlandais, malaisiens, indiens, japonais. Et hélas, les joueurs français ne font pas exception. Les deux meilleurs joueurs français que sont les frères Popov, Thomas et Christo, sont classés 25e et 27e. Thomas, il n'a pas gagné un match en simple depuis près de 2 mois. Et par contre, Christo, il est entré dans l'histoire en remportant le tournoi d'Hambourg, ce qui est très rare pour un français. Malgré tout, on le voit mal aller lutter pour une médaille. A noter également, et ça peut avoir son importance, qu'un seul des deux frères Popov ne sera qualifié en simple. Cette victoire donc dans le tournoi d'Hambourg rebat donc clairement les cartes pour la qualif, puisque Christo passe devant son frère au classement. Dans les autres catégories, chez les femmes en double et en double mixte, c'est hélas globalement similaire. Nos Français ont un très bon niveau, mais ceux à l'échelle européenne. Sauf que, on l'a dit, le niveau européen, à quelques exceptions près, est à des années-lumière du niveau asiatique, donc là encore, il ne faut pas s'attendre à récupérer des médailles. Là par contre, là on parle. Félix et Alexis Lebrun, médaille d'or, pouf, on n'en parle plus. Pardon, je m'emporte je crois. J'ai développé un peu quand même parce que voilà, mais en tout cas, on a de vraies belles chances de médailles avec ces deux loustiques. Déjà, pour ceux qui me prennent pour un fou, on parle de tennis de table. Et oui, c'est possible d'être hype devant du tennis de table. Donc, reprenons. En tennis de table, on a aussi le droit à une grosse domination des joueurs chinois qui occupent les 5 premières places du classement mondial avec notamment Fan Zhendong, numéro 1 mondial. Sauf que, derrière les 5 chinois, il y a Félix Lebrun, 17 ans. Est-ce que j'ai le seum parce qu'il est 10 000 fois plus talentueux que moi avec un an de moins? Bien sûr, enfin. En tout cas, Félix, il est en grande condition depuis le début de l'année puisque depuis le 1er janvier, il a une victoire au WTT Star Contender avec un 11-0 en finale face au Brésilien Hugo Calderando, 6e mondial à l'époque, et a aussi porté l'équipe de France en finale des mondiaux par équipe face à la Chine évidemment. Ça, ça fait plaisir à tous nos Français puisqu'il est clairement en lice pour une médaille à Paris. On va finir par le meilleur, le tennis. J'avoue que au moment de commencer cette chronique, j'étais parti pour dire que gna gna gna, les Français sont nuls. Mais entre-temps, il y a Hugo Humbert qui s'est réveillé et qui monte en puissance petit à petit jusqu'à remporter le tournoi de Dubaï et pointer à la 14e place mondiale, ce qui n'était pas arrivé pour un Français depuis 3 ans avec Gaël Monfils. Donc, si Hugo continue à progresser comme il le fait en sachant qu'il sera certainement très motivé pour performer aux Jeux de Paris, on peut viser un bon résultat. On le rappelle, il y aura 4 joueurs français aux Jeux et pour l'instant, les 4 heureux élus sont Hugo Humbert donc, mais aussi Adrian Manarino, Arthur Fils et Gaël Monfils. Il faut le dire, les Français n'ont pas ramené une médaille en simple depuis Arnaud Di Pasquale en 2000 à Sydney. Depuis, les Français n'ont jamais passé les quarts de finale du tournoi olympique. On a parlé des Français, mais qu'en est-il des favoris? Déjà, on ne peut pas ne pas citer Novak Djokovic, que je ne vais pas présenter ici parce que globalement on n'a pas le temps, pour son immense palmarès. Il n'a encore jamais été titré champion olympique malgré ses 24 titres du Grand Chelem. Il est donc extrêmement motivé. On peut également citer Yannick Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année, Carlos Alcaraz ou encore le tenant du titre Alexander Zverev. Chez les dames, par contre, je ne me risquerai pas à pronostiquer un bon parcours pour une Française. Caroline Garcia, meilleure Française, est classée 26e mondiale et ne s'arrête plus de chuter au classement WTA depuis près d'un an. Pas vraiment encourageant à l'approche des Jeux. Ici aussi, on aura 4 représentantes et il semblerait que, en plus de Caroline Garcia, on ait Clara Burel, Océane Dodin et Diane Paris, les deux dernières ayant réalisé un très bel Open d'Australie. Mais a priori, à moins d'un exploit, ce bel Open d'Australie ne sera absolument pas suffisant pour aller titiller ce que les journalistes aiment à appeler le Big Four féminin. Quand on parle du Big Four féminin, on parle des 4 grandes joueuses qui dominent actuellement la scène mondiale, c'est-à-dire Iga Swiatek, Aryna Zabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina et c'est tout. Donc, même si on a beaucoup d'indices, impossible de déterminer qui sera champion olympique sur la terre battue de Roland-Garros. Il faudra certainement attendre l'édition 2024 des Internationaux de France pour avoir un premier aperçu des forces en présence 2 mois avant le tournoi olympique. Petite précision qui me semble nécessaire, lors de la dernière chronique, on a parlé de rugby à 7 en disant que ça allait être compliqué d'aller chercher une médaille chez les hommes. Depuis, ils m'ont fait mentir les bougs, puisque avec Antoine Dupont, les Bleus ont remporté le tournoi de Los Angeles, leur premier titre depuis 2005. Donc, rectification, les Bleus peuvent clairement aller chercher une médaille. C'est tout pour moi pour cette troisième chronique, j'espère que je vous ai éclairé sur certains points. On se retrouvera comme d'hab dans un mois pour une nouvelle émission qui portera sur les sports de combat, escrime, etc.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain avec PA qui vous parlera des sports de combat au JO et moi qui vous parlera d'une nouvelle sportive qui m'inspire énormément.
Et plein d'autres choses, bien évidemment.
Au revoir.
Salut.